Voilà. Alors, Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om
Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo
Om
Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Vasudevaya.
Srila Prabhupada Ki.
Jai.
Jai. Allez, allez, bon. Alors, on est à la page 163. Alors, on fait la conclusion. Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Oui, juste le temps d'arriver à la page, parce que je m'étais trompée, j'ai ouvert la Shri Upanishad.
OK.
Alors, 17.9. 17.9.
C'est ça.
Les paroles exactes de Parahat Maharaj, telles que les rapporte le Srimad Bhagavatam, sont les suivantes. Matir na Krishne Parata sat svato va mito vipadyeta griya pratanam Adanta Gobir Vishatam Tamishram Puna Punaskarvita Charva Nanam. Ceux qui ont décidé de poursuivre leur séjour dans l'univers matériel afin d'offrir davantage de plaisir à leurs sens n'ont aucune chance de devenir conscients de Krishna. Que ce soit par leurs propres efforts, par les enseignements reçus d'autrui ou par une combinaison des deux. Leurs sens les entraînent emballés vers les plus profondes ténèbres de l'ignorance où ils s'évertuent frénétiquement à mâcher du déjà mâché. Srimad Bhagavatam 7.5.30. Prahlad Maharaj répondit en ces termes. Du fait qu'ils ne sont pas maîtres de leurs sens, ceux qui sont exagérément attachés à l'existence matérielle marchent vers des conditions de vie infernales et mâchent sans fin ce qui a déjà été mâché. Jamais ils ne développent en eux une attirance pour Krishna, que ce soit à la faveur d'enseignements reçus d'autrui, par leurs propres efforts ou par une combinaison des deux. Teneur et portée. Dans ce verset, les mots Matir na Krishne se rapportent au service de dévotion offert à Krishna. Des prétendus politiciens, éminents érudits et philosophes lisant la Bhagavad Gita s'efforcent d'en dénaturer le sens pour l'adapter à leur dessein matériel. Mais la conception erronée qu'ils ont de Krishna ne leur sera d'aucun profit. Du fait que ces politiciens, érudits et philosophes veulent utiliser la Bhagavad Gita pour régler leurs problèmes d'un point de vue matériel, il ne leur est pas possible de penser constamment à Krishna ou d'être conscient de Krishna. Matir na Krishna. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita 18.55, Bhaktiamam abhijananti, seul le service de dévotion permet de connaître Krishna tel qu'il est. Les soi-disant politiciens et érudits considèrent Krishna comme un personnage fictif. Le politicien déclare que son Krishna est différent de celui que décrit la Bhagavad Gita. Même s'il accepte Krishna ou Rama comme le suprême, il leur attribue une existence impersonnelle, car il n'a pas la moindre conception de ce qu'est le service de Krishna. Aussi, toute son occupation se résume-t-elle en ces mots, Punaha, Punas, Charvita, Charvana, Nam, mâcher sans fin ce qui a déjà été mâché. Le but de ces politiciens et de ces érudits profanes est de jouir de l'univers matériel au moyen de leur sens. C'est pourquoi il est clairement déclaré ici que les griya vrata, ceux dont le seul but est d'assurer tout le confort possible à leur corps en ce monde, ne peuvent comprendre la personnalité de Krishna. Les deux expressions, griya vrata et charvita charvananam, indiquent que le matérialiste cherche à jouir des plaisirs des sens dans différentes formes de corps, vie après vie, mais demeure insatisfait au nom du personnalisme ou de telle ou telle autre doctrine en isme. Ces personnes restent à jamais attachées à un mode de vie matérialiste. Selon la Bhagavad Gita 2.44, Bogeshvariya Prashak Tanam Taya Patrita,
Palita.
Parita, Chetasam, Via Vashayat, Vashayatmika, Budhi, Samado, Na Vidyayate. Trop attaché au plaisir des sens, à la richesse et à la gloire, et égaré par ses désirs, nul ne connaît jamais la ferme volonté de servir le Seigneur suprême avec amour et dévotion. Les êtres attachés au plaisir matériel ne peuvent se fixer dans le service de dévotion offert au Seigneur. Ils ne peuvent ni percevoir la position de Bhagavan, Krishna, ni comprendre son enseignement, la Bhagavad Gita. Adanta, Gobir, Vishatam, Tamishram. La voie qu'ils empruntent les conduit directement vers une existence infernale. Comme Rishabhadeva le confirme, Mahat Sevam Dvaram Hahur Vimukte, il faut chercher à connaître Krishna en servant l'un de ses dévots. Le mot Mahat se rapporte en effet à un bhakta. Mahatmanas Tumam Parta Devim Prakritim Ashkita Bhajanti Ananya Manaso Gyatva Bhutadim Avyayam. Ceux qui ignorent l'égarement au fils de Prita, les Mahatmas, se trouvent sous la protection de la nature divine. Me sachant Dieu, la personne suprême, originelle et intarissable, il s'absorbe dans le service de dévotion. Bhagavad Gita 9.13. Un Mahatma est une personne qui pratique constamment le service de dévotion, 24 heures par jour, comme l'expliquent les versets qui suivent. À moins de s'en remettre à une personne aussi noble, nul ne peut connaître Krishna tel qu'il est. Hiranyakashipu désirait savoir où Prahlad avait acquis sa conscience de Krishna. Qui l'avait donc instruit? Prahlad lui répondit alors d'une manière sarcastique. « Mon cher père, les hommes comme toi ne peuvent jamais comprendre qui est Krishna. On ne peut le comprendre qu'en servant une grande âme, Mahat. On dit des personnes qui cherchent à améliorer leurs conditions matérielles qu'elles mâchent du déjà mâché. Personne n'a jamais réussi à parfaire sa condition matérielle. Pourtant, vie après vie, de génération en génération, les gens s'y appliquent et ils échouent de façon répétée. À moins d'être convenablement instruit par un mahatma, un pur dévot du Seigneur, il est impossible de comprendre Krishna et son service de dévotion. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati disait que le monde matériel n'est pas une place pour un gentleman. Ce n'est pas une place pour y rester non plus. Il ne reste qu'une seule place qui soit convenable, celle du royaume de Dieu, soit sur l'une des innombrables planètes Vaikuntha ou Krishna Loka, la planète de Krishna.
Jai, merci beaucoup.
Allez, Krishna.
C'est un petit moment. Om namo. Okay. Om Gyanati Mirandasya Gananjana Sadakaya Chaksurun Militam Yena Tesmai Shri Gurave Namaha Shri Prabhupada Ki Jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
Une question. Le monde qui sont comme Hiranyakashipu, tout ça, c'est du monde quand même super intelligent.
Oui, ils sont
comment
intelligents.
Sont être
attends, on t'entend pas bien. On t'entend pas bien, monsieur. Répétez. Répétez, s'il vous plaît.
Hiranyakashipu. Hiranyakashipu, c'est comme personne très intelligente pour le monde, l'univers. Mais qu'est-ce qui l'a rendu là? Est-ce que son ego qui est tellement épais qu'il voit pas la vérité?
Bon, Hiranyakashipu, c'est, disons, un asura hors du commun. Alors, Hiranyakashipu était dans sa vie antérieure ou ses quelques vies antérieures, à trois vies près, pas beaucoup, là, trois vies près. Alors, c'était Jai et Vijay dans le monde spirituel. Ils ont commis une offense à l'endroit des Kumaras, des quatre Kumaras, et ils ont été maudits à prendre naissance dans le monde matériel. Alors, ils ont été offerts le choix, à savoir trois fois comme des Asuras ou sept fois comme des demi-dieux. Ils ont choisi trois fois comme des Asuras. Alors, c'était moins long et ils voulaient revenir au monde spirituel le plus vite possible. Alors, ils ont choisi trois fois. Mais, ce sont des Asuras qui, même si ce sont des Asuras, ils sont quand même dans le plan de Krishna. Parce que, Prabhupada explique que il y a personne dans le monde spirituel qui va se battre avec Krishna. Mais Krishna, quand il veut se battre, il peut pas se battre non plus avec des démons ordinaires. Il préfère se battre avec des dévots. Alors, les dévots jouent un rôle de démons, d'Asura, puis ça fait l'affaire de Krishna. Alors, quand Krishna tue un démon, il accorde la libération à cette personne-là. Alors, dans un sens, disons qu'on peut dire ça, c'est la seule belle mort qui puisse arriver, c'est d'être libéré par Krishna, en ce qui concerne un Asura, là.
Mais un démon normal, comment qu'il fait pour arriver à être démon normal? Quand même, il y a de l'intelligence. Est-ce qu'encore, c'est son ego qui est tellement large qu'il voit pas la vérité? Il voit seulement lui et sa puissance et son bonheur.
Ben, un petit démon normal, il est recouvert par un corps grossier auquel il s'identifie et un corps subtil. Et le faux ego est un facteur important qui le garde dans l'égarement. Alors comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'être incarné sous l'influence du faux ego se croit l'auteur de tous ses actes, alors que ses actions sont la dictée de l'énergie matérielle. Alors, sous l'influence de l'énergie matérielle, alors qu'est-ce qu'elle fait, l'énergie matérielle, pour une âme conditionnée dans ce monde matériel? Vous pouvez le dire dans vos mots, là.
De comme quoi, dans quel...
Comment elle exerce son influence, l'énergie matérielle,
sur
une âme
Krishna.
Conditionnée?
Ça fait oublier Krishna.
C'est fait oublier Krishna, c'est quoi alors? Ça, oublier Krishna, c'est négatif, le positif. Pas positif
ouais,
spirituel,
biens,
positif
des
matériel.
Des richesses, des titres, des pouvoirs, elle te donne dire, toutes sortes de choses, mais tu payes à la fin.
Oui, tu vas payer, mais l'énergie matérielle, elle, qu'est-ce qu'elle fait pour inciter un asura à courir après ses variétés d'illusions, la richesse, la gloire, la renommée, la force, les opulences que Krishna a, mais l'âme conditionnée veut se les approprier, soi-disant que ça lui appartient, son corps lui appartient, et elle vit dans l'illusion, parce qu'il n'y a rien qui lui appartient, tout appartient à Krishna. Alors, l'énergie matérielle le garde dans son emprise en lui, comme on dit en québécois, en lui enflant la tête. Ah oui, t'es bon, t'es capable, t'es fort, personne n'est au-dessus de toi. Là, on a un exemple, là, M. Trump, que ça, c'est le genre parfait d'exemple, là. On voudrait pas dire ça, mais donc, il coche pas mal les cases, là. à cet égard-là. Rien n'est supérieur à lui. Il peut se permettre n'importe quoi et se fiche éperdument de n'importe qui. Parce que c'est lui, après Dieu, c'est lui, là. Alors, comme
mais
il
dit... il croit vraiment. Attends, je comprends pas comment ça fait. Il croit à ça. Tu sais, il est vraiment dans la brume, là. Tu sais, dans
ouais,
sa croyance de lui-même, là.
Ouais, il est dans la brume totale. Mais les gens l'ont élu, alors il faut qu'ils vivent avec. Puis il y en a qui sont pas plus fins parce qu'ils pensent qu'ils ont fait un bon choix. Puis peut-être qu'il va les entraîner pour la si jamais il y a une autre élection là à poursuivre soit avec lui ou un de ses successeurs qui serait aussi pire que lui là. Bon, mais c'est sûr, il a établi un standard et ce standard-là ne va pas s'effacer du jour au lendemain, malheureusement. Ça, c'est l'âge de Kali. L'âge de Kali fait qu'il y a des standards qui s'établissent. Puis après, ça devient la norme, ainsi de suite. Alors, c'est ça. Hiranyakashipu est un grand démon. Mais par contre, il avait un fils qui lui est un grand dévot. Et son père lui demande, où est-ce que tu as appris ça? Tout ce que tu sais. Il l'a appris quand il était dans le ventre de sa mère. Il écoutait Narada Muni qui prêchait à sa mère. Et lui, il écoutait les instructions. Alors, il est devenu un grand dévot. T'es déjà un grand dévot, disons, à la naissance. Et même Indra était venu quand sa mère était enceinte, la mère de Prahlad. Il a épargné la mère, mais son plan de match était dès que l'enfant va naître, c'est l'enfant d'Hiranyakashipu, je vais le tuer. Parce qu'il voulait pas avoir de démon aussi fort qui pourrait donner du fil à retordre au demi-dieu. Alors, Narada Muni lui a dit que même si tu voudrais le tuer, tu pourrais pas le tuer. Parce qu'il est protégé, c'est un grand dévot. Alors, il s'est abstenu de faire ça. Prahlad Maharaj est venu au monde. Et Prahlad Maharaj, disons, est resté fidèle à lui-même. D'être un dévot de Krishna, très fixe, parfaitement conscient de Krishna. Et Prahlad Maharaj est un exemple de droiture. Alors, quand son père lui demande où est-ce que tu prends ton pouvoir, d'où te vient ce pouvoir-là, et il lui dit de la même source que toi. Alors là, Hiranyakashipu, il y a de quoi être décontenancé. Parce qu'il peut pas comprendre la source de toute chose. Et là, pour le narguer, il lui dit, est-ce que ton Dieu est dans cette colonne? Et là, il prend son épée et veut frapper la colonne. Et c'est à ce moment-là que de la colonne jaillit le Seigneur Nrisimhadev. Et le Seigneur Nrisimhadev est tellement parfait dans son timing. Faut pas oublier que le Seigneur Brahma avait accordé des bénédictions à Hiranyakashipu. Et Hiranyakashipu avait demandé des bénédictions. Il voulait devenir immortel. Alors, Brahma lui dit, je peux pas te donner l'immortalité parce que moi-même, je ne suis pas immortel. Alors, comment est-ce qu'un mortel peut donner l'immortalité à un autre? C'est impossible. Alors, Hiranyakashipu, Prabhupada dit, les démons sont très intelligents. Alors, d'une façon détournée, il a demandé des faveurs au Seigneur Brahma, à savoir, est-ce que vous pouvez m'accorder comme faveur, je ne veux pas mourir, ni le jour, ni la nuit. Brahma dit oui. Alors, je ne veux pas être tué par aucune arme. Brahma dit oui. Aucun animal. Brahma dit oui. Et il doit y avoir d'autres exceptions là qui m'échappent, mais de toute
aucun
façon.
Aucun humain.
Aucun humain, dans, aucun animal, justement.
Non plus dans le ciel ou à terre.
C'est
dans
ça.
Dans mon château ou à l'intérieur.
Ni dans l'eau. Alors,
non, ouais.
alors tout ça, ça a été accordé. Alors, quand il a eu tout ça, il pensait, ben, les carottes sont cuites, là. Je suis immortel. Il pensait qu'il arriverait jamais quelque chose qui le tuerait. Et le Seigneur Nrisimhadev lui est apparu au coucher de soleil. C'est ni le jour ni la nuit. Il l'a mis sur ses genoux. C'est ni au ciel ni sur la terre. Et il l'a tué avec ses griffes. C'est pas une arme. C'est pas un humain. Parce que lui était moitié homme, moitié lion. Donc, c'était spécial. Le Seigneur Nrisimhadev a déjoué complètement ses plans tout en honorant les bénédictions du Seigneur Brahma. Et ça, c'est parfait. Et Pralad Maharaj, quand il a vu ça, pour lui, il voyait que c'était son Seigneur adoré. Le Seigneur Nrisimhadev était en extase. Il a offert des belles prières au Seigneur Nrisimhadev. Et ça, c'est parfait comme ça. Alors, le Seigneur peut prendre la forme qu'il veut, quand il veut, où il veut, il est parfaitement libre de faire à sa guise. C'est le Seigneur Krishna, c'est comme ça. Alors, même le Seigneur Chaitanya a décrit ça dans son Sukshastakam, que le Seigneur peut me broyer, me rendre le cœur brisé en n'étant pas présent devant moi, mais il est tout complètement libre de faire ce qu'il veut. C'est Seigneur Chaitanya qui dit ça, c'est Krishna lui-même qui dit ça. Alors, c'est quoi le bonheur pour un dévot?
C'est d'entendre parler de Krishna, de le servir avec amour et d'accepter
oui.
sa volonté de n'importe
Oui.
quelle façon il s'exprime.
Oui, c'est d'être engagé. Tout ça, c'est très bon. D'être engagé, se tenir engagé dans le service de dévotion offert à Krishna. Le dévot ne demande pas de bénédiction de Krishna. Comme Prabhupada dit, même si Krishna les offre, le dévot ne les demande pas, ne les accepte pas, mais dans un autre côté, il les accepte parce que Krishna veut qu'il les accepte aussi.
Mais alors, un dévot, lui, la seule chose qu'il demande, j'attends ça souvent, c'est de ne pas l'oublier.
Oui, ça c'est...
Sinon, l'oubli, c'est fini, tout ça.
Exact. Alors, Prabhupada donne l'analogie, à savoir qu'un fils, par rapport à son père, peut décider qu'il veut obéir à son père. Et parce qu'il a figuré, si j'obéis à mon père, je vais être heureux, je vais être content. Alors, il dépend du père. Et il est heureux comme ça. Alors, c'est la même chose pour un dévot, que lui est une âme soumise, il s'abandonne à la volonté de Krishna, puis peu importe qu'est-ce qui arrive, c'est du pareil au même, parce que son attitude, c'est une attitude de service, de dépendance sur la bonne volonté de Krishna, sur la miséricorde de Krishna. C'est l'attitude d'un dévot comme tel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, ici le verset du Srimad Bhagavatam, ceux qui ont décidé de poursuivre leur séjour dans l'univers matériel. Une minute. Je vais remonter ça. Bon, là, ça va être un paquet de troubles. Là. Non. La page 165. 64. 60. Bon, là, c'est un petit peu difficile, là, mais en tout cas, on va le lire. Ceux qui ont décidé de poursuivre leur séjour dans l'univers matériel afin d'offrir davantage de plaisir à leur sens n'ont aucune chance de devenir conscients de Krishna, que ce soit par leurs propres efforts et par les enseignements reçus d'autrui ou par une combinaison des deux. Leur sens les entraîne emballés vers les plus profondes ténèbres de l'ignorance, où ils s'évertuent frénétiquement à mâcher du déjà mâché. Srimad Bhagavatam 7.5.30. Alors, on en a parlé la dernière fois, ou disons dans les cours, soit c'est Chopanishad ou ce cours-ci, ou Padeshamrita. Alors, le mot Adanta Go. Go, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Go? G-O.
On en a parlé quand on parlait des Swami et des Goswami. Oh.
C'est ça. Alors, Go, ça veut dire quoi?
Je suis trop de mémoire.
Contrôle de ses sens. Go, sens.
Go, ça veut dire les sens.
C'est ça.
Alors, Goswami, ça veut dire quelqu'un qui est maître de ses sens. Alors, quelqu'un qui est Adantago, ça veut dire qu'il n'a pas de maîtrise sur ses sens. Alors, et c'est impossible d'être conscient de Krishna s'il n'y a pas une maîtrise sur les sens. Et pour maîtriser les sens, ben, ça prend une motivation. Il faut avoir une raison pour le faire. Sinon, c'est les sens qui, comme à l'habitude, sont prédominants et entraînent l'âme conditionnée à gratifier les sens. Les sens sont très forts, sont très puissants. Alors, ça prend quelque chose qui est plus puissant que les sens. Et ça, c'est quoi?
Krishna.
Krishna, oui.
C'est
le service de dévotion. Alors, Krishna et le service de dévotion, ça va ensemble, là. C'est inséparable. Oui. Alors, service de dévotion est plus puissant que la gratification des sens. C'est plus attirant aussi, c'est plus motivant pour quelqu'un qui a goûté ou qui a cultivé la conscience de Krishna. Alors, quelqu'un qui n'a jamais pris conscience de Krishna, ça veut rien dire. Alors, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit ce qui est la nuit pour les matérialistes, c'est le jour pour les spiritualistes. Et ce qui est la nuit pour les spiritualistes, c'est le jour pour les matérialistes.
J'ai jamais compris ça, par exemple. Nuit, jour, mat...
C'est 2,69, je ne m'abuse. Attends une minute, on va aller voir ça. 2,72. C'est ça. Bon. Une minute, on va finir par le trouver. 2,69 Bhagavad Gita. Alors, ça dit ici, c'est ça. Ce qui est la nuit pour tous les êtres est le temps de l'éveil pour l'homme maître de soi. Et ce qui pour tous est le temps de l'éveil est la nuit pour le sage introspectif. Teneur et portée. Il y a deux sortes d'hommes intelligents. L'un va se servir de son intelligence sur le plan matériel dans le but de jouir de ses sens, quand l'autre va l'utiliser d'une manière introspective pour s'ouvrir à la réalisation spirituelle. Les actions du sage introspectif, de l'homme réfléchi, sont, pour l'homme imprégné de pensées matérielles, obscures comme la nuit. Ignorant son identité spirituelle, le matérialiste sommeille dans cette nuit. Le sage réfléchi, au contraire, reste vigilant dans la nuit du matérialiste. Il ressent une joie transcendantale au fur et à mesure qu'il progresse sur le sentier de la réalisation spirituelle, tandis que le matérialiste, endormi, fermé à la réalisation spirituelle, rêve de divers plaisirs sensoriels, éprouvant dans son sommeil tantôt de la joie, tantôt de la peine. L'homme introspectif est toujours indifférent aux joies et aux peines inhérentes à l'existence en ce monde. Il poursuit son évolution spirituelle sans être troublé par des circonstances matérielles. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Alors, c'est deux mondes différents. Un monde, le monde perçu par un spiritualiste et le monde perçu par un matérialiste, c'est deux choses bien différentes. Alors, un est éveillé et l'autre est endormi. Alors, comment est-ce qu'on peut être sûr qu'on est éveillé?
Dépendant de notre attraction, si on est attiré à Krishna ou au plaisir des sens. Si
D'accord.
Il y a les sens, on est endormi. Si c'est Krishna, on commence à se réveiller.
Oui, mais c'est combien de temps par jour, ça?
Ben, ça devrait être 24 heures par jour. Sinon, une petite fraction va te reprendre dans le monde des plaisirs sensoriels.
C'est ça. C'est la bonne réponse. Alors, si c'est 24 heures par jour, la conscience est différente. Il y a un éveil. Alors, si tu demandes à un dévot, normalement, là, tu sais, c'est comme piquer le gâteau dans le fourneau. Tu veux savoir s'il est cuit ou pas. Tu prends ta fourchette, tu piques. S'il n'y a rien qui reste après, il est cuit. Mais s'il y a de la pâte, il y a quelque chose qui reste après, il n'est pas cuit. Oublie ça. Faut que tu le laisses dans le fourneau. Alors, la conscience d'un dévot, le dévot fait au moins un effort. Cet effort-là peut grandir avec le temps. Mais le dévot, il le sait qu'il se doit de penser à Krishna parce que la conscience de Krishna est faite comme ça. C'est toujours se rappeler de Krishna, jamais n'oublier Krishna. Alors, si le dévot se souvient de Krishna, qu'est-ce qu'il va faire, le dévot, dans sa vie de tous les jours?
Il va faire tout ce qu'il peut pour que Krishna le voit, qu'il le sert. Il veut prendre son attention à Krishna.
Parfait.
Je pense que c'est...
Il va plaire à Krishna.
Oui, mais qu'est-ce qu'il fait pratiquement parlant, le dévot?
Il se connecte.
Mais se connecte comment?
En
au téléphone?
Les... Non, non, c'est Japa. Il se connecte en faisant des tours de Japa, en offrant sa nourriture.
En parlant de Krishna.
Oui, tout ça, c'est très bon. Mais si on prend un dévot laissé à lui-même, Je vais vous donner un exemple aujourd'hui, là, il m'en est arrivé un exemple, j'ai trouvé ça comique. Alors, le dévot il n'y a pas d'autres dévots à côté de lui, là. Il est tout seul. Il mène sa petite vie, là. Normalement, le dévot va essayer de se garder concernant Krishna en chantant tout le temps. En chantant le Mahamantra. Alors, je vais vous raconter ma petite histoire d'aujourd'hui. Je trouvais ça un petit peu... Moi, je trouve ça un peu comique, là. Sur le coup, c'était, disons, pas si comique que ça, mais quand même. Alors, je m'en vais chez Bureau en gros. Et un monsieur en avant de moi, qui est un Français, juste par l'accent, je savais ça, c'est un Français de France. Ben, il peut être Canadien, mais d'origine de France. Alors, moi, je chante Hare Krishna, disons, je me rendais pas compte que lui est en train d'entendre que je suis en train de chanter Hare Krishna, mais je chante pour moi-même. Alors, il se revire de bord, puis il me regarde comme, c'est comme s'il voulait me dire quelque chose, me reprocher quelque chose, mais il parle pas. Alors, je sais pas qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, il dit, j'entends quelqu'un. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je vous entends marmonner. Alors, je lui dis, ben, je fais ma prière. Elle dit, ah, ok. Alors, elle dit, continuez à faire votre prière. Je continue. Mais moins fort. J'avais pas, tu sais, conscience que ça le dérange, le monsieur. Il avait pas de l'air dérangé, mais il se demandait c'était quoi cette affaire-là, tu vois. Et je sais que je chantais pas assez pour qu'il comprenne Krishna, Krishna, Hare, Hare, là. Distinctement. C'était pour moi. Alors, c'est en plein, comme qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Un, c'est la nuit et l'autre, c'est le jour. C'est deux mentalités différentes. Et ce n'est pas pour, disons, critiquer cette personne-là, je la connais pas. Alors, peut-être qu'elle a un côté spirituel, je ne le sais pas. Mais toujours est-il que c'est ça qui est comique aussi. Le fait d'avoir dit, ben, continuez votre prière.
C'est déjà bon.
C'est déjà un service de dévotion. Sans qu'ils s'en aperçoivent. Alors, il a été bénéficié de dire ça. Et ça, ben, Krishna va pas l'oublier, là. Il y a un petit bénéfice qu'il a recueilli avec ça. Mais ça montre, justement, que tu regardes, quand tu vas, mettons, au bureau en groupe, tu regardes tout ce beau monde-là, il n'y a pas grand monde qui chante Hare Krishna là-dedans. Là. Tout le monde est occupé à ses propres petites affaires. Tout le monde a plus ou moins une certaine patience ou impatience d'être servi. Et puis, tu sais, c'est comme ça que ça se passe. Mais si tu es conscient de Krishna, t'attends ton tour, mais t'essayes de penser à Krishna en même temps. Quand ton tour va venir, ben là, faut pas que tu chantes, là. Faut que tu dises qu'est-ce que tu veux, puis pourquoi t'es là, puis etc., etc. Alors, tu peux pas dire la commis du magasin va pas comprendre si tu chantes avec Krishna qu'est-ce que tu veux, là. Il faut que tu lui parles en détail qu'est-ce que tu veux. Et puis, elle va te servir. Et comme ben, la raison que j'étais là aujourd'hui, c'était ce que j'ai fait imprimer le volume 2 du mantra 2 de Upadeshamrita. Alors, ce sera pour le prochain cours. Et puis, voilà. Pour moi, c'est plus facile d'avoir le cahier dans les mains que de lire à l'écran. Là. Et puis, je vous encourage à faire la même chose. Et comment on peut dire? Ben, le prochain cours, ça va être dans le mantra 2 de Upadeshamrita.
La semaine prochaine?
Oui. Oui. Le mantra 2. Et j'ai juste attrapé quelques petites bribes au passage, et puis ça promet, ça devrait être très intéressant. Le manuel comme tel. Alors, c'est ça, je l'ai ici. Manuel. C'est manuel. Mantra 2, c'est la même couverture que mantra 1. Mais, tu vois, c'est à peu près épais comme... Deux minutes. Épais
Ah,
comme
wow.
Long.
Ah oui.
Toi, c'est...
200 pages.
210 pages et 25 modules.
OK.
Ça veut dire qu'il y a 25 paragraphes commentés dans le même style qu'on fait toutes les fois, là.
OK, nice.
Voilà. Alors, on va être bon pour au moins un an, si c'est pas plus. Et puis, les Upadeshamrita, ils sont, on peut dire, ils sont tous faits. En tout cas, on en a pour un bon bout à étudier le Upadeshamrita. Alors, ça, c'est ça.
C'est vraiment bien. Merci
Ouais.
beaucoup, Hugo.
Ouais.
Ce travail que tu fais.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Juste pour parler des demi-dieux.
Ouais.
Il y a Shiva qui est utilisé énormément de ces temps-ci avec le CERN qui est en Suisse, parce que c'est le destructeur, puis là il l'utilise comme atome, je sais pas pourquoi là, on va dire, ils vont faire pour voir là, comment le monde a été créé, puis en même temps ils font peur au monde parce que beaucoup de monde le voit comme destructeur, il voit rien d'autre, tu vois. Alors ils utilisent beaucoup de demi-dieux des Indes. Mais c'est du monde intelligent. Moi, je les vois comme ça, des Asuras, parce qu'on a tout besoin vraiment de faire ça, non? De
Oui,
savoir comment
tu parles du CERN en Suisse, qui c'est sur le CERN, c'est
c'est la chose
un accélérateur de particules.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Bon.
Non, ben oui, c'est qu'à des fins scientifiques, hein, c'est en fait ils veulent se prendre pour Dieu, donc il faut qu'ils comprennent tout, qu'ils expriment en tout. Donc là, ils poussent l'atome au maximum pour pouvoir en tirer la particule, en fait, qu'ils appellent la particule de Dieu, qui est l'énergie, qui est la présence primordiale. Vas-y.
Mais avec ça, ils veulent ouvrir un portal pour d'autres dimensions. Ça, c'est leur but ultime. C'est qui va se créer au-dessus de la Terre pour faire venir d'autres asuras, d'autres démons, pour avoir le pouvoir de contrôler la Terre. Ça, c'est leur... Qu'est-ce que j'ai entendu là, dire?
Après ça, moi, je sais pas trop ça, si c'est ça ou pas, mais du côté scientifique, j'avais suivi quand ils avaient lancé leur truc, en fait. C'est un accélérateur de particules sur plusieurs kilomètres, en fait, et ils balancent des neutrons là-dedans, et je sais plus trop ce que ça devient, en fait, parce que je crois que ça a fonctionné, mais ils ont pas atteint ce qu'ils voulaient, en fait. Parce que
Bon,
Krishna n'oublie pas que c'est le contrôleur suprême. Donc, il va les laisser faire certaines choses, mais il va pas leur permettre de tout faire.
ouais, il va leur laisser faire de façon à ce qu'un jour ça va se retourner contre eux autres. Ils auront couru après. Alors, il n'y a rien de nouveau, en fait. Disons. Puis en plus, Krishna, lui, avec les âges de Kali, c'est pas le premier âge de Kali, hein, c'est cédulé dans le temps que justement à tel intervalle, il y a les quatre âges, il y a un âge de Kali, puis ensuite ça recommence, puis ça s'en va comme ça, là. 1000 kala, c'est un jour de Brahma. Et 1000 encore, c'est la nuit de Brahma. Long. Puis justement, et le Seigneur Brahma vit 100 ans. Alors, c'est inconcevable pour nous.
Et ça, c'est tout. Tout.
Oui, et tout ça, c'est sous le contrôle de Krishna. Krishna est le temps éternel. Alors, tout ça, c'est sous contrôle. Et les asuras, justement, sont les premiers à dire le contraire. À savoir, ça c'est dans la Bhagavad Gita, dans le 16e chapitre, les asuras disent qu'il n'y a pas de contrôleur. Mais tout est contrôlé. Alors, ils sont dans l'illusion. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font et que les gens ne s'aperçoivent pas de ce qui se passe vraiment. Alors, d'après la lecture que nous avons faite aujourd'hui, nommez une chose dont ils ne s'aperçoivent pas. Et qu'ils recommencent tout le temps.
Et tout ça, c'est la volonté de...
D'après la lecture d'aujourd'hui, nommez une chose qu'ils recommencent tout le temps, mais dont ils ne s'aperçoivent pas.
Mais de vie, en fait, de vie en vie, ils passent de vie en vie. Non, je...
C'est Prahlad Maharaj qui le dit. C'est une expression à retenir par cœur. Mâcher le déjà mâché.
OK.
C'est ça qu'ils font. Alors, ils recommencent, ils recommencent, ils recommencent. Et l'ancêtre de 1000 ans passés, ou 2000 ans, ou 3000 ans, ou 5000 ans, ou 1 million d'années, lui aussi faisait la même chose. Mâcher le déjà mâché. Ça veut dire que ça a déjà été expérimenté, ça n'a pas donné de résultats concluants, mais il recommence pareil. Ça, c'est ce qu'on appelle punak punak charvita charvananam. C'est dit ici, dans la teneur portée, mâcher sans fin ce qui a déjà été mâché. Comme dans la teneur portée, c'est dit ici.
Alors, celui qui remâche.
Vas-y, vas-y.
Ben, je le dis seulement, celui qui remâche, c'est que il se pense qu'il est meilleur que l'autre qui a mâché, que lui va pouvoir le mâcher puis avoir des résultats. Alors, qu'il est plus intelligent que les autres avant.
Ouais.
Ah, moi, j'ai trouvé la réponse. Hein?
Ouais. Bien, quelques temps plus tard, un autre va faire la même chose, ainsi de suite. Alors, Prabhupada, dans une classe, il donne l'exemple. Les gens qui ont... C'est quoi donc? Je pense que c'est le betel, ou en tout cas une substance quelconque. Alors, il y a des gens qui mâchent ça. Ah, c'est ça, la canne à sucre. Alors, il y a des gens qui mâchent la canne à sucre, tirent le jus, tirent le jus, tirent le jus. Et quand ils n'en peuvent plus, ils jettent ça par terre. Et là, il y a un enfant ou quelqu'un qui va ramasser ça et lui, va aussi vouloir mâcher. Ça, c'est l'exemple que Prabhupada donne. Mâcher le déjà mâché. Il reste plus rien dedans, là. Mais il va le ramasser, puis il va mâcher pour essayer de tirer quelque chose. Ah, ça, c'est la vie matérielle. Alors, il faut avoir des yeux pour voir ces choses-là. Alors, qu'est-ce que les matérialistes font? Disons, en termes de publicité, quel est l'objectif?
C'est toujours.
Ben, ils veulent vendre quelque chose. S'ils font de la
Oui, ils
publicité, ils
veulent
veulent te vendre
vendre.
quelque chose.
Ils veulent vendre quelque chose. Ça, c'est quelque chose. Peu importe qu'est-ce qu'ils veulent vendre, ils veulent te vendre le bonheur que ça peut procurer.
Le plaisir.
Ouais. Mais le bonheur ou le plaisir ne peut pas durer. Ou parfois, c'est un bonheur qui ça peut être le bonheur pour quelqu'un, puis pas nécessairement le bonheur pour une autre personne. Alors, comme par exemple, il y a une publicité, par exemple, de sofa ou de canapé. Alors, tu vois un grand athlète de la NBA. C'est lui qui fait l'annonce. Il s'étend de tout son long ou s'assoit sur le canapé pour te montrer justement, hey, ça c'est un bon canapé, ça. Mais qui va rester couché toute la journée sur un canapé? Qui est capable de faire ça de un s'il a le temps? Et la majorité du temps, les gens n'ont pas tellement de temps que ça. Et même si tu restes allongé dessus toute la journée, est-ce que ça veut dire que tu vas être bien reposé, en forme, tout ça? Pas nécessairement. Les gens préfèrent dormir dans un lit plutôt que de dormir sur un canapé. Le canapé, ça, c'est la solution de rechange. N'est-ce pas que c'est comme ça? Mais la publicité, elle va te vendre que c'est le bonheur. Pas faux, c'est pas absolument faux, mais faut pas être leurré non plus. T'sais? Une autre genre de publicité, c'est les, comme ils disent, ça c'est pour
Il y a un
les
mot qui m'a...
amateurs. Pardon?
Excusez.
Pas compris.
Non, j'allais dire, le mot qu'ils utilisent beaucoup de ce temps-ci, c'est vous le méritez.
Ah oui, vous le
Vous
méritez, oui.
méritez.
Ouais, surtout L'Oréal, là. Il dit ça souvent aux femmes. Parce que vous le valez bien. Il faut les convaincre de donner un petit coup de pouce, là. Allez-y pour. Et, pour les amateurs de sensations fortes, il y a les fameuses courses automobiles, la F1, qui est supposé, là, tu vas avoir les sensations fortes, en veux-tu, en voilà. Mais ce n'est pas un plaisir, disons, 100% non plus garanti. Parce que parfois, tu peux être dans l'estrade, il peut y avoir un accident, puis la même voiture peut te revoler d'en face. Ou tu peux avoir un éclat de métal qui t'arrive, et qui te blesse. C'est pas garanti, c'est pas 100% sécuritaire, ça. Mais c'est pour ceux qui veulent les sensations fortes. Alors, la blessure peut aussi être forte. Et que faut-il dire des conducteurs de ces voitures-là qui mettent leur vie en danger? Oui, c'est beau, la gloire, comme on dit en anglais, le thrill que ça peut engendrer, mais il y a le danger aussi. Et il y a une loi de la nature matérielle qui veut que tu peux pas faire ça toute ta vie. Ton cœur peut pas prendre ça toute ta vie, t'es limité. Alors, tu peux pas faire de la course automobile toute ta vie, là. C'est sûr que tu vas mourir à un moment donné. Ça va te tuer parce que ton cœur n'est pas capable de le prendre à partir d'un certain moment donné. Alors, tout est limité. Alors, tu as le droit d'essayer, de l'éprouver, mais c'est limité et il y a action-réaction. Et dans le temps, tout est pesé selon les lois de la nature matérielle. Alors, quelle est l'attitude d'un dévot face à ça?
Ni chaud ni froid.
Exactement. Le dévot, il regarde ça.
Il est coupé de tout ça.
Mais c'est ça. Il est détaché de ça. Et ça, c'est la grâce de Krishna. Alors, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 56. Un verset intéressant qui montre l'attitude d'un dévot. Alors, c'est dit ici, l'être qui n'est pas affecté par les trois formes de souffrance, ni enivré par les joies de la vie, qui n'est pas sujet à l'attachement, la crainte et la colère, est qualifié de sage à l'esprit ferme. Alors, ça, c'est la position, ça devrait être la position d'un dévot. Qu'il n'est pas dérangé dans son esprit en présence des trois formes de souffrance matérielle et il n'est pas attiré ou, c'est ça, comme c'est dit là, le sanskrit sukeshu vigatas priya, qui veut dire, dans le bonheur, sukeshu vigatas priya, sans prendre d'intérêt. Ça, c'est la position d'un dévot, quelqu'un qui est conscient de Krishna. Il n'est pas dérangé. Que ce soit la détresse ou le bonheur, ça, comme Madhava Nanda dit, ça ne laisse ni chaud ni froid. Il n'est pas affecté. Sa conscience est ailleurs. Pardon?
On est indifférent, en fait. Le dévot est indifférent. C'est pas quelque chose qui l'intéresse ni qui le désintéresse. En fait, il est indifférent.
Ouais. C'est ça. Il est indifférent à ces choses-là. Pourquoi? Parce que sa conscience est fixée ailleurs. Ailleurs que dans les circonstances de dualité matérielle. Où est fixée sa conscience?
En Krishna?
En Krishna, où?
Dans son cœur?
Krishna, à ses pieds, pareil au lotus.
Ah ben oui, c'est vrai. Depuis.
Parce qu'on peut penser à Krishna, mais on devrait toujours s'en tenir aux pieds pareils au lotus de Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Mais juste pour...
On t'entend pas bien.
Ben, je veux dire aux karmés qui vont, ceux qui vont à la course de voiture et le vendent l'illusion très cher, c'est quand même 1 000 $ pour s'assir d'un stage. Ça donne rien de plus. Mais seulement dire, j'ai un billet de 1 000 $. C'est comme tout dans la tête. C'est quoi ça donne, ça? Ça donne quoi, décidément? L'idée, j'ai un billet de 1 000 $, je suis assis dans le stage.
C'est ça, c'est le faux ego, l'identification avec le corps, puis la tête enflée. Là, ensuite, tu veux montrer à tes amis, et en tout cas, ça n'en finit plus là, comme conséquence. Là, tu as pris des photos, tu veux les montrer, tu penses que tu es quelqu'un parce que tu es... T'as été au show. Et ça vaut ce que ça vaut. C'est un bonheur temporaire. C'est pas un bonheur permanent, ça.
Puis de toute façon, le dévot, hormis les rassemblements, les Sankirtan et les rassemblements de dévots, il fuit tout ça, le dévot. Ça l'intéresse pas. Il préfère les lieux solitaires à la limite que d'aller se mélanger comme ça. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose qui. Donc, pour tout, c'est les fêtes foraines. On peut prendre tous les milliers d'exemples pendant des heures. On pourrait citer des milliers d'exemples. Le dévot, il ne s'intéresse pas à ça, en fait. Ce qui
Ouais.
l'intéresse, c'est s'il y a un mouvement de foule, c'est un mouvement de foule avec des d'autres dévots. Pour chanter les saints noms, pour faire prêcher, distribuer du prachad, mais pas pour se retrouver à se divertir, parce que de toute façon, c'est pas des divertissements, c'est de l'illusion.
Ouais. Et quelle est une des rencontres les plus motivantes pour un dévot, donc parmi ce que tu viens de dire, là? Donnez un exemple.
Ratayatra?
Elle a rencontré un autre dévot.
Oui, mais le Ratayatra, là.
Mais oui, c'est là, on sort le char et on danse tous. Ah,
Ouais.
c'est grandiose.
Ouais, le Ratayatra, c'est... Il n'y a rien qui bat le Ratayatra. Et on peut, comment on peut dire, se sentir très reconnaissant à l'endroit de Srila Prabhupada, qui lui était déterminé. C'était son plan de match d'introduire le Ratayatra en Occident. Alors il l'a fait. C'était en 67, si je ne 66, 67, quelque chose comme ça. En tout cas, premier Ratayatra, c'était à San Francisco. Et Prabhupada, tu vois l'arrangement de Krishna. Shyama Sundar, des disciples de Prabhupada, était, comment on dit ça, donc, un sculpteur de métier.
C'est lui qui a construit le premier chariot, non? Pas lui?
Possiblement, mais c'est lui qui a sculpté les premières déités de Jagannath. Parce que c'est arrivé qu'un jour, Malati, son épouse, est allée au magasin, puis elle a vu ses petites poupées. Puis, elle a trouvé un petit seigneur Jagannath. Elle a ramené ça à Prabhupada. Puis Prabhupada dit, où sont les autres? Est-ce qu'il y en a d'autres? Elle dit oui. Alors Prabhupada dit, va chercher les autres. Alors, elle est allée chercher Balaram et Subhadra. Et là, Prabhupada a vu ça, mais c'est sûr, il a donné son hommage, là, parce que c'est Seigneur Jagannath. Et là, après, peu de temps, il a demandé à Shyamasundar de faire en plus gros ces petites déités de Jagannath. Et il a fait des grandes déités, et c'est ces déités-là qui ont servi pour le premier Ratayatra en Occident. Tout ça, c'est l'arrangement de Krishna. Qui aurait dit la première des choses, Seigneur Jagannath, il va se ramasser dans un magasin pour le grand public. C'est incroyable.
Bah oui.
Alors,
Comment il avait atterri là, ça c'est un mystère.
c'est ça, alors. C'est l'arrangement de Krishna, tout ça. Et Prabhupada dans une classe. Sur le Prabhupada, la journée, un Vyasa Pooj à lui. Et je pense que c'était à l'occasion de la disparition de son maître spirituel, c'est ça. Soit l'apparition ou disparition, mais en tout cas, c'était en l'honneur de Śrīla Bhaktisiddhanta. Et Prabhupada, il dit dans cette conférence, on peut dire, il dit, qui aurait su que je serais venu en Occident? Qui aurait su que les dévots seraient venus à Prabhupada? Qui aurait dit ça? Il dit, c'est l'arrangement de Krishna. Alors ça, c'est Prabhupada lui-même qui le dit, là, c'est extra. Tout est l'arrangement de Krishna en ce qui concerne le mouvement. Qui vient, qui rentre, qui sort, etc. C'est extraordinaire. Et le mouvement continue à se répandre, même si Prabhupada n'est pas physiquement présent. Mais ses instructions ont tellement bien été instituées que le mouvement continue. Contrairement, comme Sri Prabhupada a expliqué, contrairement à la Gaudiya Math, aussitôt que Sri Bhaktisiddhanta est parti, c'était la chamaille entre qui va avoir quelle chambre dans les temples, qui va gouverner quoi. Mais dans ISKCON, c'est pas comme ça. Prabhupada voulait que ça soit selon un conseil pour gérer avec des GBC. En tout cas, ça c'est une autre histoire, là. J'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Plus que ça, disons juste de dire que c'est parfait. Ce que Srila Prabhupada a institué, ça tient la route. Et c'est bien comme ça. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Prabhu, j'ai vu. Juste partager un petit quelque chose. J'ai vu une photo de Prabhupada dans le New Vrindavan qui avait mis une couronne en or avec le sceau dessus puis un manteau. Moi, je pense personnellement, c'est vraiment pas correct. C'est le New Vrindavan là, qui se trouve aux États-Unis
Virginie de l'Ouest.
Oui, Virginie, exact. Mais c'est comme Prabhupada, c'était loin de ça. Lui, c'était la simplicité, l'humilité et tout ça. Il n'a jamais voulu être un roi ou quelque chose.
Oui, Prabhupada le prend comme un service à recevoir, c'est tout. Mais disons, 2 minutes après, il va enlever ça, là. Moi, j'ai jamais entendu ça, là. Mais ça, c'est la position d'un pur dévot. Il va accepter, disons, une offrande, quelque chose qui va venir d'un dévot. Parce que ça va bénéficier le dévot, mais personnellement, il n'est pas attaché à ça. Il est capable de remettre ou de redistribuer par la suite. Et c'est comme ça, la vie spirituelle, là. C'est du prachad. Tu reçois du prachad, tu donnes du prachad. Alors, c'est comme c'est dit, le prachad qui est offert au pur dévot. Mettons, le prachad qui est offert aux déités est offert au dévot, au pur dévot. Et même à ça, on peut pas offrir aux déités sans l'offrir directement au pur dévot, en premier lieu. Mais disons que le prachad, s'il est offert à un dévot, le dévot en mange et il le donne à un autre dévot, ça devient du maha-maha-prachad. Et plus c'est transféré d'un dévot à un autre dévot, tu rajoutes le mot maha-maha-maha-maha-prachad. Et ça, ben, tu peux en... T'en as jamais trop de ça. Et ça arrive pas si souvent que ça dans la vie, justement, d'avoir du prachad d'un pur dévot. Et puis, tu sautes sur l'occasion, si jamais l'occasion se présente. Et moi, je me souviens, quand Prabhupada venait, les dévots voulaient avoir les restants de Prabhupada. Ça, c'est garanti, ça.
Un grain de riz pour chacun.
Ouais. Alors, moi, je me souviens, une fois, j'étais au temple à Fontenay-aux-Roses, en banlieue de Paris. Prabhupada était là. Et il y avait un escalier qui descendait jusque à l'entrée de la cuisine. Alors, l'assiette, quand Prabhupada avait fini, c'est sûr qu'elle allait venir à la cuisine. Mais sur le plancher de cette cuisine-là, pas dans la cuisine, mais à l'extérieur. Moi, j'étais là. Ça arrivait comme ça. Et là, le serviteur me dit, hey, tu veux-tu quelque chose de Prabhupada? Et là, il me présente l'assiette de Prabhupada et il y avait, Prabhupada avait sa façon à lui de manger des oranges. Juste pour vous le dire, là. Prabhupada, il faisait juste mettre ses dents dedans, prendre le jus, mais c'est tout. Alors, il laissait tout l'écorce et puis le dedans de l'orange. Il a juste pris le jus et il laisse ça dans l'assiette. Alors, le dévot il dit, tu veux-tu quelque chose de Prabhupada? Oh ben, moi, ça a donné que mon timing était comme ça. J'étais là. Alors, c'est sûr, j'ai pris une pointe, un quartier d'orange de Prabhupada, puis je l'ai mangé. Mahaprasad, Mahaprasad. Et puis, ça, justement, c'est des occasions. Ça arrive pas souvent dans une vie, tu t'en souviens quand ça arrive.
Mm-hmm.
C'est extra.
C'est la grâce de Krishna.
C'est la grâce de Krishna, justement. Ça, c'est rien d'autre que ça, la grâce de Krishna. J'aurais pu ne pas être là, mais ça a donné que j'étais là.
Voilà.
À ce moment-là. Et puis, c'est ça. J'ai mangé un quartier d'orange de Prabhupada. C'était extra. Alors, sur le moment, disons, tu fais qu'est-ce qu'il y a à faire, mais c'est par la suite. Tu peux pas évaluer la valeur de ce prachad-là, mais c'est extra, là.
Mm-hmm.
C'est super. Alors, c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires?
Non.
On dit souvent par la grâce de Krishna. Non, non, on dit par la grâce de Krishna. Mais, puis on dit, il n'y a pas une feuille qui bouge sans sa volonté. Or, c'est toute sa grâce, alors. Il n'y a rien d'autre que sa grâce qui existe partout, tout le temps.
Oui.
Il y en a qui est petite, la grâce, il y en a d'autres qui est grosse. Mais c'est toujours sa volonté, sa grâce.
Oui. Tout est lié à la grâce de Krishna. Alors voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Avant qu'on ne voit plus Madame Ananda.
Oui.
D'accord.
Et la nuit commence à tomber chez vous aussi.
Oui.
Ouais. Alors c'est ça, merci beaucoup.
Hare Krishna, à la semaine prochaine.
C'est ça, prenez soin de vous.
Vous aussi, à vous.
Et puis, je vais mettre en ligne probablement demain le volume 2 de Ishopanishad, là. Pas Ishopanishad, Upanishamrita Mantra 2. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai travaillé là-dessus, mais je l'ai pas mis en ligne, je pense pas, en tout cas.
Non,
mais ça s'en vient.
Je n'y étais pas.
C'est ça. Ça s'en vient très prochainement.
D'accord. On va suivre ça alors.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Hare Krishna. Bonne semaine à vous tous.
Oui, à vous aussi.
À tous vous tous.
Au revoir. Hare Krishna.
Au revoir. Hare Krishna.
Jai. Hare Bol.
Jai.
Jai. Pause. Stop.